Radio Kapi. Oh, Kapi. À la présentation du journal, Lievin Mbuinga.
Bonjour et merci de choisir Radio Kapi pour vous informer. Au sommaire de cette édition, lutte contre le banditisme urbain, l'opération Ndobo en cours. Elle a été lancée vendredi à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Nous allons entendre Jacquemain Chabani dans un instant. Et puis retour sur la maladie inconnue qui décime la population de la zone de santé de Panzi dans le Kwango. Pas de panique, lance l'ASBEL Action Plus qui appelle la population au calme. Radio Kapi anime depuis mercredi une session de remise à niveau des journalistes des radios communautaires en Mbandaka et Gemena. Pelé Kipela Mondo, rédacteur en chef adjoint à Radio Kapi, un des formateurs, va nous parler de ce projet exécuté avec l'appui de l'ambassade de France en RDC. Mais notez d'abord que Kinshasa est capitale des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État à partir de ce lundi 9 décembre. Plus simplement, il s'agit d'un forum qui se propose de faire des entreprises publiques un levier puissant de la croissance et du développement de la RDC. Les participants qui viennent de tous les horizons s'apprêtent pendant 5 jours à poser le diagnostic en examinant les maux dont souffrent la plupart des entreprises du portefeuille de l'État. Au sortir de ces états généraux, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, voudra rendre les entreprises du portefeuille plus performantes et accroître efficacement leur contribution au budget de l'État. L'ouverture officielle sera faite par le chef de l'État ce lundi au centre financier de Kinshasa. Nous y reviendrons. Je le disais en titre, lutte contre le banditisme urbain, le vice-premier ministre de l'Intérieur lance l'opération Ndobo, cette action lancée vendredi à Kinshasa et qui signifie hameçon, lutte contre les délinquants communément appelés Kuluna. Jacquemain Chabani l'a dit au cours d'une réunion d'évaluation des opérations de la police nationale congolaise pour lutter contre ce phénomène Kuluna et l'action de la police sur la mesure sens unique pour lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa. On écoute Jacquemain Chabani expliquer cette opération à la population de la commune de Kalamu où des Kuluna ont été arrêtés à Yolo samedi au lendemain de son lancement. C'est un extrait proposé par Alain Hirung.
Vous voyez votre police sur terrain. Vendredi, nous avons lancé l'opération Ndobo. L'opération Ndobo est une opération recommandée par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour que nous puissions la mettre en place afin d'imposer la paix dans nos quartiers. Nos frères que nous avons arrêtés aujourd'hui et que nous appelons Kuluna avaient déjà été avertis depuis un temps. Nous avions même interpellé les familles pour que ces jeunes soient conscientisés et surveillés pour ne pas tracasser la population. Mais maintenant, nous passons à une autre étape. Nous les arrêtons et les déférons devant la justice pour qu'ils soient jugés et condamnés, qu'ils soient emprisonnés pour que nos quartiers, nos cités vivent dans la paix et que les populations puissent vaquer librement à leurs occupations. Aujourd'hui, c'est la première opération et chaque semaine, nous la ferons jusqu'à mettre fin au phénomène Kuluna. L'opération Ndobo a été lancée et tout le monde le sait. Elle va s'étendre à toutes les villes du pays.
Puisque nous parlons sécurité, sachez que l'état de siège au Nord Kivu en Ituri est prorogé pour la 87e fois. Cela s'est passé samedi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Présenté et défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, le projet de loi autorisant prorogation de l'état de siège dans les deux provinces a été adopté sans débat à l'Assemblée nationale. Explication Jacques-Yves Molima.
Ce choix de proroger sans débat l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri traduit à suffisance la patience de la Chambre basse du Parlement et l'urgence pour cette institution d'avoir enfin le rapport d'évaluation de cette mesure d'exception au regard des cris d'alarme des populations locales qui dénoncent certaines dérives et mégestions dans ces deux provinces. Signalons que, pour une première fois en pleine séance plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a donné la parole aux représentants des ressortissants de Béni présents dans la salle de plénière. Premier concerné par cette mesure, ses filles et fils de Béni estiment que l'état de siège n'a rien apporté de positif sur terrain. Par ailleurs, au Sénat, le président Jean-Michel Samalou Kondé a annoncé pour le mercredi prochain la tenue du congrès consacré au discours du président de la République.
Entre-temps, sur le terrain, les combats se sont poursuivis pour la 7e journée consécutive hier dimanche entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les FRDC dans le village de Kaseye, situé à environ 60 km de Lubero Centre, au nord Kivu. Des sources de la société civile locale indiquent que ces affrontements interviennent après une accalmie observée samedi soir dans les villages de Luofu, Miriki et Matembe. Selon Rigen Mbui Kalonji, le porte-parole des opérations du front nord de l'armée, les FRDC ne font que riposter aux attaques du M23 qui tentent de contourner leur position en violation du cessez-le-feu. Dans la même dynamique de recherche de la paix, une centaine des présumés criminels arrêtés dans le cadre de l'opération Safisha Mjiwa Goma, traduisez « nettoyer la ville de Goma », sont déjà devant la justice pour répondre de leurs actes. C'est ce qu'a indiqué à Radio Kapi ce week-end l'auditeur de garnison de Goma. La justice militaire fait son cheval de bataille, l'éradication de l'insécurité dans la ville, mais aussi faire de la population témoin des audiences pour des raisons pédagogiques, a déclaré ce responsable. Le tribunal militaire de Goma a déjà organisé une dizaine d'audiences en flagrance et sanctionné des malfrats auteurs de crimes divers, a-t-il indiqué. Sifa Marguru pour plus de détails.
D'après l'auditeur des garnisons, au moins 32 dossiers concernant 131 détenus sont en cours à différentes étapes. Dans ce lot figurent des mineurs, dont 3 dossiers ont été renvoyés au tribunal pour enfants. Toutes ces personnes sont poursuivies pour diverses infractions, notamment vol en main armée, association des malfaiteurs, meurtre, vol qualifié, viol et dissipation de munitions de guerre. Le magistrat Djembi Mondondo Michel affirme en outre que les tribunal militaire a déjà condamné en flagrance une dizaine de malfrats, dont un auteur de viol, mais aussi un Muzalendo condamné à la peine de mort pour avoir tué par balle un élève en plein salle de classe en territoire de Nyiragongo. L'autre cas emblématique est celui d'un militaire de la garde républicaine qui a tiré en désordre et tué 2 personnes au port public de Goma il y a de cela une semaine. Celui-ci a également écopé de la peine de mort. Un autre procès en flagrance et celui d'un militaire Muzalendo qui a tué un enfant de 3 ans dans les camps de déplacés de Boulengo est en cours et l'audience prochaine est fixée au lundi 9 décembre, précise-t-il. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Suite de la maladie inconnue qui décime la population de la zone de santé de Panzi dans la province du Kwango, avec cet appel de la société civile locale, l'ASBEL Action Plus, une structure de la société civile œuvrant notamment dans le domaine de la santé, appelle la population au calme et à ne pas paniquer. Dans un entretien avec Radio Kapi, Jude Changata, son coordonnateur, invite plutôt cette population au respect strict des règles d'hygiène édictées par les autorités sanitaires pour limiter la transmission de cette maladie non encore diagnostiquée. Jude Changata est joint par Irène Mboma Luzolo.
Par rapport à la question de la situation sanitaire dans la zone de santé de Panzi, nous, en tant qu'organisation membre de la société civile, nous appelons la population au calme parce que la situation, je sais que le gouvernement est en train de travailler, les experts sont déjà sur le terrain, mais ce que nous exigeons à la population, d'appliquer les mesures de prévention parce que jusque-là, la maladie n'est pas encore connue. C'est pourquoi ils doivent se protéger, laver les mains, appliquer les mesures barrières comme cela est exigé par les professionnels de santé. Donc, que la population ne s'épanouisse pas, mais qu'elle suive seulement les messages des professionnels de santé qui sont en train de passer des jours le lendemain. Ne pas toucher, ne pas se outre, ne pas se saluer à main. Et aussi, l'hygiène est exigée. Les ministres professionnels de la santé et sa suite sont en train de travailler déjà sur place pour détecter s'il s'agit de quelle maladie. Souvent, la toux, la fièvre ainsi que l'anémie. Sans faire même autant de jours, la personne trépasse.
Et puis cette alerte en provenance de Lubumbashi dans l'ex-Katanga, plusieurs maisons sont construites en dessous des lignes haute tension de la Société nationale d'électricité. D'autres sont construites sur le lit des rivières. Le constat a été fait par une délégation des députés provinciaux du Haut-Katanga qui sont descendus sur le terrain vendredi. Notons que plus d'une fois, la SNEL a demandé à ceux qui occupent ces emprises de les libérer, mais rien ne change. Jean Gandou nous en dit plus dans ce reportage.
Ces constructions que les autorités qualifient d'anarchiques sont visibles notamment sur la route des contournements dans la commune annexe, mais aussi à la hauteur du lycée Tchondo au quartier Mampala dans la commune de Lubumbashi et même à certains endroits dans la commune de Rouachi. D'après la Société nationale d'électricité, l'intervalle entre les constructions et les lignes haute tension doit être d'au moins 25 mètres de part et d'autre. Force est de constater, renseigne la SNEL, que les bâtisses poussent en dessous de ces lignes. Il y a aussi de nombreuses activités qui sont organisées à certains endroits. C'est entre autres les marchés de fortune, les ateliers de fabrication des matériaux de construction, dont les pavés, les fours à briques et autres lavages des véhicules. Ce n'est pas tout. Il y a aussi des maisons qui sont construites sur le lit de la rivière Lubumbashi. D'autres personnes ont érigé des bâtisses non loin de la rivière. Le cas du quartier Bondo dans la commune de Kenya. Ces familles sont souvent victimes des inondations et des maladies d'origine hydrique qui en découlent, dont le choléra. Après la visite, le chef de la délégation des députés provinciaux, Kilière Moubambe, s'est ainsi exprimé.
Les maisons doivent être érigées à plus ou moins 25 mètres. Et là, vous voyez, il y a d'autres maisons qui sont en dessous des lignes de force, ce qui constitue un danger pour les habitants qui sont dans ces maisons.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Économie, un nouveau cadre de coopération pour le développement durable pour les 5 prochaines années et il couvre la période 2025-2029. Il a été signé par le gouvernement congolais et le système des Nations Unies en RDC. Cette signature intervient après validation conjointe du contenu de ce document stratégique reprenant les priorités des Nations Unies en appui à celles du gouvernement congolais. Le nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable signé entre Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État des Affaires étrangères, et Bruno Lemarquis, coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, s'articule autour de 4 axes d'intervention définis en lien avec les domaines prioritaires du plan national stratégique de développement. Plus d'éclairage dans ce reportage signé Gisèle Cage.
Parmi ces 4 axes d'intervention figurent la gouvernance efficace, l'état des droits et la protection des populations au service d'un développement inclusif et d'une paix durable en RDC. Le cadre de coopération que nous signons aujourd'hui est bien plus qu'un document, c'est une feuille de route ambitieuse co-construite avec toutes les parties prenantes pour accompagner la RDC dans la réalisation de son programme national stratégique de développement et de sa vision pour l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, a déclaré M. Bruno Lemarquis. La grande innovation du nouveau cadre de coopération est d'orienter les interventions vers l'appui aux politiques et aux réformes à caractère réellement transformateur. Ce partenariat tombe à point nommé puisque le système des Nations Unies va accompagner les efforts de notre pays pour atteindre les ODD qui ont été mis en mal par plusieurs facteurs, tant endogènes qu'exogènes, a déclaré pour sa part Thérèse Kayikwamba Wagner.
C'en est fini depuis samedi avec la première session de renforcement des capacités des radios communautaires à Mbandaka. Cette formation réunit 16 journalistes venus de Mbandaka, de Bansankusu et de Bikoro. Tous se sont familiarisés avec les nouvelles pratiques du métier, notamment en vue de faire face aux enjeux du moment. Je vous signale que cette formation a été assurée par des facilitateurs de Radio Kapi avec l'appui de l'ambassade de France en RDC. Sport à présent avec la 26e CAN handball senior dame. L'Angola a remporté la coupe. La RDC termine sa CAN à la 5e place. Les Léopards dames n'ont pas réussi à se qualifier pour les demi-finales, synonyme d'une qualification au championnat du monde. Elles se disent satisfaites de la réussite dans l'organisation de la compétition à Kinshasa. Vanessa Kongolo.
Pour une première CAN organisée à domicile, la capitaine des Léopards, Christiane Moisessa, toute souriante, est fière de la réussite.
On a réussi. Si on arrive jusqu'à la fin, cela veut dire qu'on a réussi. Franchement, rien à dire. C'est la première et je suis fière. On a déjà participé à
plein de compétitions, on a déjà vu les pires. Mais là, franchement, je suis très contente. Et chapeau et merci vraiment à notre gouvernement.
Meilleur élu de la compétition, Pina Luambo est heureuse d'avoir vécu un moment inoubliable à domicile.
On est quand même contente d'avoir vécu ça au pays, d'avoir vécu tous ces moments. Et pour la distinction personnelle, ça fait très plaisir parce que c'est beaucoup de travail et ça paye aujourd'hui. C'était incroyable, c'était que des bons moments. Même dans la difficulté, on a eu le soutien du public et c'était vraiment incroyable. On est vraiment très contente.
Mélissa Agathe espère que cette CAN va permettre de relancer les sports féminins au pays.
Franchement, c'était une première. Déjà, l'organisation était très bien. L'objectif aussi, c'est de faire connaître le sport féminin, le handball ici, donc chose qui a été faite. Donc franchement, on est content.
Pour rappel, la CAN handball s'est déroulée du 27 novembre au 7 décembre 2024 à Kinshasa.
Actualité internationale.
Chute de Bachar al-Assad, plus de 13 ans de guerre sanglante et un demi-million de morts. Depuis 2011, la Syrie est plongée dans une guerre civile sans fin qui a fait près d'un demi-million de morts et des millions de déplacés. La chute de Bachar al-Assad s'est déroulée hier dimanche. Quelques heures plus tôt, des groupes rebelles menés par des islamistes radicaux annonçaient en direct à la télévision publique la chute du président syrien Bachar al-Assad et la libération de la capitale syrienne après une offensive fulgurante. La Russie a accordé l'asile à Bachar al-Assad et à sa famille qui se trouve à Moscou, ont révélé des agences russes citant une source au Kremlin.
L'invité.
Ambandaka et Gemena, dans le Grand Équateur, Radio Kapi anime simultanément depuis mercredi dernier une session de remise à niveau des journalistes de radio communautaire, un projet que la radio exécute avec l'appui de l'ambassade de France en RDC. Parmi les objectifs, outiller ces professionnels de médias en vue de contrer la désinformation, soit encore les discours de haine qui se répandent de plus en plus. Pele Kipelamondo, rédacteur en chef adjoint, qui est l'un des formateurs, s'entretient ici à cet effet avec Paul-Richard Malengela.
Pele Kipelamondo, pour quel objectif cette formation d'une semaine au profit des radios communautaires de la province?
Nous poursuivons quelques objectifs à travers cette formation qui ne se passe pas seulement ici, se passe aussi dans d'autres provinces où on a été. L'occasion m'est donnée, je crois, d'abord à dire merci à l'ambassade de France, à RDC, qui finance ces formations centrées sur l'écriture journalistique et la présentation radiophonique. Mais il y a également un autre volet qui concerne la désinformation et les droits de l'homme. Donc l'objectif poursuivi, c'est de pouvoir outiller les journalistes dans l'exercice de notre fonction. Vous savez que nous travaillons, c'est vrai qu'avec le temps, des fois on perd un peu la main sur l'écriture journalistique et chaque métier a ses exigences. Donc avec l'expérience que nous avons acquise nous-mêmes dans les métiers, nous avons jugé utile de pouvoir la partager aux autres. Mais également aujourd'hui, on assiste à la désinformation avec la montée en puissance des réseaux sociaux. Alors, face à ça, comment le journaliste peut arriver à faire la différence entre la vraie information et la fausse information? Et comment déceler cela? Donc, c'est l'essence un peu de notre formation. Mais aussi, l'autre objectif, c'est d'amener aussi les collègues des radios communautaires à hausser un peu le niveau. De manière que si demain, la volonté d'Okapi étant d'étendre un peu son réseau de radios communautaires, qui est chaque fois que nous avons, par exemple, besoin de productions qui viennent des radios communautaires, que ce soit des choses bien faites. Dans ces cas-là, il faut outiller les journalistes pour les rendre capables de pouvoir fournir des produits qui répondent aux normes que nous nous respectons.
À ce propos, quels conseils apportez-vous à ces radios communautaires qui sont en train de battre de l'aile faute de moyens?
Ça, c'est un vrai défi partout où nous sommes passés. C'est la demande qui est sur notre table. Pour quelles conditions ces radios évoluent, qui n'ont pas assez de moyens? C'est un gros défi que nous lançons également en direction de ce qui nous permet de faire ce travail. Des partenaires comme l'ambassade de France qui finance cette formation, comme je l'ai dit. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui peuvent mettre la main à la pâte pour pouvoir aider ces radios à bien travailler en leur fournissant les moyens. Aujourd'hui, c'est vrai que nous mettons à la disposition de ces radios la formation du personnel. Chemin faisant, il y a par exemple des radios communautaires où on nous dit « Nous n'avons qu'un seul ordinateur pour travailler. » Et comment on peut travailler avec un seul ordinateur? C'est pratiquement impossible. Mais je pense, c'est aussi un appel que je lance en direction d'autres partenaires qui puissent vraiment entendre ces cris-là, qu'en dehors de la formation que nous donnons, que nous puissions aussi être capables de pouvoir fournir des moyens tels que des enregistreurs, des ordinateurs et d'autres moyens qui puissent permettre à ces radios de pouvoir évoluer comme il se doit.
La plupart se posent la question de savoir après combien de temps que Radio Capi pourrait encore organiser ce genre de remise à niveau.
La formation, elle est très très importante, pas seulement pour les journalistes mais pour d'autres métiers. Donc celui qui ne se forme pas, il arrête d'exister tout simplement. En principe, le souhait est que les cycles de formation soient assez irréguliers. Mais ça, ça dépend aussi des moyens. Donc une fois de plus, l'appel est lancé à ceux qui peuvent. Pourquoi on aurait seulement l'ambassade de France? Je veux dire, nous tous, nous souhaitons que ces cycles de formation soient continuels. Mais ça dépendra des moyens. Et j'espère, je ne suis pas pessimiste en cette matière-là. Je crois vraiment que ce soit l'ambassade de France qui nous finance aujourd'hui ou qui finance ces formations, il y aura d'autres partenaires qui vont s'ajouter.
Étant donné que vous êtes rédacteur en chef adjoint de Radio Capi, vous faites partie du management de cette radio, la question que se pose tant de Congolais, étant donné que la radio est devenue comme une école de journalisme dans le pays, est-ce que la population peut espérer à sa pérennisation pour continuer cette œuvre?
Bon, cette question nous est posée un peu partout. Quel est l'avenir de Radio Okapi après la MONUSCO? La MONUSCO est appelée à fermer à partir de la RDC un jour. Et quel est l'avenir de Radio Okapi? Donc, du coup, je puis déjà rassurer nos nombreux auditeurs que Radio Okapi restera. Sous quel label, je ne sais pas, mais elle restera Radio Okapi et les efforts sont conjugués pour qu'il y ait cette continuité-là. Donc, sur ce point-là, je peux dire que toutes les parties sont d'accord.
Pelé Kipelamondo, merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Alain Irung, à Jacques-Yves Molima et à Polydor Basunga.